si on ne se remet pas massivement dans la rue, on va continuer le retour en arrière.
Vous pensez que quelqu'un qui arrive au bout du 11e jour du mois, il n'arrive plus à remplir son frigo, pensez qu'il a la tête à aller réfléchir sur les émissions, sur un truc complètement abstrait?
Alors qu'il recule dans les agendas politiques, les dérèglements climatiques jalonnent les terres de ses effets meurtriers. Comment rendre le combat climatique populaire? Voici une conférence avec Yamina Saheb, docteur en ingénierie énergétique et professeur à Sciences Po Paris. Elle est connue comme co-autrice du volet 3 du 6e rapport du GIEC, largement axé sur la sobriété énergétique. Patrick Scheider est artiste multimédia. Il est fondateur du mouvement d'écologie culturelle en France et co-auteur du Manifeste pour une écologie populaire. Nicolas Van Nuffel est responsable du plaidoyer au CNCD 11-11-11. Il a co-présidé la coalition belge pour le climat de 2018 à 2024. Cette conférence est animée par Samuel Cogolati, co-président d'Écolo. Vous êtes le dimanche 31 août 2025 sous le grand chapiteau de ma sombre.
On a vraiment l'impression que le monde a totalement changé, que les marches pour le climat ne retentissent plus aussi loin qu'avant, certainement pas comme en 2018 à l'époque. Qu'est-ce qui a changé? Comment rassembler? Comment pouvons-nous encore rendre ce combat climatique populaire? Et je me permets peut-être d'interroger d'abord Patrick, si tu es d'accord, pour voir, toi, qu'est-ce que tu entends en fait par populaire? Parce qu'évidemment, il y a plusieurs notions. Ça peut être les quartiers populaires, ça peut être le sens d'une chanson populaire. Qu'est-ce que tu veux dire par écologie populaire? Et plus spécifiquement, comment penses-tu que ce combat pour le climat peut encore avoir un avenir?
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors en fait, moi je suis pianiste, donc je ne suis pas du tout scientifique. On va dire que je suis monsieur tout le monde. Voilà. Et c'est une situation que je trouve finalement plutôt confortable, parce que je pense que l'écologie, elle doit être comprise par tout le monde et pas seulement par ceux et celles qui s'y connaissent. On critique peut-être avec une certaine justesse le fait qu'il y ait une écologie qui soit descendante de ceux qui savent, les scientifiques, vers ceux qui ne savent pas, qui est une chose absolument nécessaire, fondamentale, ainsi que l'écologie politique. Mais on essaie avec l'écologie culturelle de faire une écologie qui soit ascendante, qui parte du terrain, finalement, des territoires, pour remonter. Un peu, vous savez, comme la sève de l'arbre, l'hiver, elle descend au sol, et puis au printemps, bah, elle remonte, voilà, ça fait des très belles feuilles. Donc, en fait, c'est un cycle. Donc, effectivement, populaire, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, populaire, c'est net, c'est quelque chose qui s'adresse au plus grand nombre. Parce qu'en fait, tout le monde n'est pas censé comprendre effectivement les rapports, ou les aimer, ou même vouloir les comprendre. Donc qu'est-ce qui prend d'une chose populaire? C'est quelque chose qui ne parle pas seulement, à mon sens, à notre raison, à notre intellect, mais aussi à notre sensibilité, voire à notre histoire, à notre affect, en fait. Et peut-être qu'on peut s'autocritiquer, se dire que l'écologie a été peut-être un peu trop désincarnée, qu'elle a parlé un langage exclusivement raisonnable pour qu'on prenne les bonnes décisions. Mais même si la science a raison, la question se pose de savoir comment on fait passer ce message. Parce que si elle a raison dans son coin et que tout le monde s'en fout, à la rigueur, c'est quand même un peu grave, quoi. Donc c'est une des bases de notre réflexion sur l'écologie culturelle. Alors moi, effectivement, je suis pianiste. Donc je vous raconte brièvement une petite histoire. En fait, en France, avec l'environnement, avec la nature, on a une histoire spécifique parce que c'est des artistes qui, les premiers, ont défendu la nature. C'était le combat pour la forêt de Fontainebleau dans les années 1830-1850. Donc, comme quoi, cette lutte écologique, elle est de longue date. Et c'est des artistes qui se sont combattu le roi Louis-Philippe, qui voulait tout abattre, vendre les chênes qui étaient pluricentenaires à un très, très bon prix, faire de l'argent, et à la place, planter des pins qui repoussent tous les 20-30 ans, on peut les couper. Donc, ça rapportait plus que les chênes qui mettent des centaines d'années à pousser. Et ceux qui se sont élevés contre ça, ce n'étaient pas du tout les scientifiques ou les politiques de l'époque. C'est des artistes qui étaient les peintres de Barbizon, les premiers peintres en plein air, donc juste avant les impressionnistes, que vous connaissez très, très bien. Et ils ont gagné. En fait, ils ont, là-bas, dans ce petit village de Barbizon, on aurait de la forêt, instauré un genre de ZAD, d'artiste. Et ils ont gagné. Et la célèbre George Sand, que vous connaissez toutes et tous, est venue à leur rescousse. Et sous la pression de ça, une action de lobbying menée exclusivement par les artistes, Napoléon III a pris la première mesure de protection à l'espace naturel au monde. C'était en 1861, 1000 hectares de forêt. Donc tout ça avant les grands parcs nationaux aux États-Unis comme Yellowstone, seulement en 1872, donc 11 ans après. Donc c'est ce qui fonde aussi un peu l'écologie culturelle. C'est-à-dire que nous, par exemple, en tant qu'artistes, personnes dites de la culture, on est bien fondé à dire « mais nous aussi, on peut s'emparer de l'écologie ». Et puis, au-delà de mon propre statut d'artiste, je pense que la culture, c'est tout, quoi. C'est la façon dont on est habillé, dont on converse, dont on échange, dont... Voilà, c'est, en fait, c'est une civilisation, la culture. Donc, je crois que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ceux qui même peut-être n'aiment pas l'écologie, et ils ont le droit, un moyen de percer, finalement, dans le grand public, c'est de passer par la culture, par le sensi, parce que ça, tout le monde, effectivement, est susceptible d'aimer une chanson. Tout le monde a des enfants, tout le monde a ses enfants. En fait, je pense que l'écologie doit prendre un virage et dire « je suis comme vous » plutôt que dire « je sais, écoutez ce que vous dites ». Parce que c'est vrai, mais après, comment on fait? Donc je crois que c'est un peu la question que vous posez dans Écolo à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Patrick. Peut-être une question pour toi Nicolas, qui du coup a vu, j'imagine, le décalage total entre la grande vague verte des grandes marches pour le climat au début de ton mandat à la tête de la société civile pour le climat et puis vers la fin et aujourd'hui. Comment est-ce que tu expliques ce décalage? Qu'est-ce qui a profondément changé et comment du coup le résorber?
Ah, vaste question évidemment. Et dans... Oui, ça, c'est l'écologie populaire, mais ça se travaille jusqu'à 4 heures du matin sur la piste de danse. Donc, je vais essayer de me reconcentrer. Le décalage auquel on assiste aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même un peu le relativiser, dans un certain sens. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours l'histoire de l'arbre qui cache la forêt, et ça joue dans un sens comme dans l'autre. Et donc... je me souviens de la vague de mobilisation et du côté extrêmement grisant qu'avait cette vague de mobilisation, d'abord le 2 décembre 2018, et puis toutes les marches qui n'étaient plus organisées par la coalition climat, qui étaient organisées par des mouvements citoyens, principalement par les jeunes de Youth for Climate, Rise for Climate, Larry est là aujourd'hui. À un moment, pour moi, le côté le plus grisant, c'est que ce n'étaient plus les professionnels de la mobilisation qui organisaient ça, c'était les jeunes et c'était les citoyens qui s'auto-organisaient. Mais déjà à ce moment-là, moi je me disais, mais un mouvement social, ça a des hauts et des bas. Et donc ça va retomber à un moment. Mais il faut quand même bien se dire que ces 6 à 9 mois de mobilisation ont changé l'histoire. Et aujourd'hui, on vit un moment très difficile, mais on a démontré à ce moment-là que la mobilisation, ça marche. Il n'y aurait jamais eu de pacte vert pour l'Europe, aussi insuffisant soit-il, sans les mobilisations de masse, et notamment, pas seulement en Belgique, mais partout en Europe, les mobilisations des jeunes pour le climat. Mais déjà, à ce moment-là, les résistances, elles étaient là. Aujourd'hui, on est dans un autre moment où c'est clair qu'on a vécu, depuis le Covid, d'abord une gigantesque fatigue citoyenne qui a dépassé de loin la question climatique. On a eu, sur les questions sociales, sur les questions de migration, sur les questions de climat, etc., énormément de mal à remobiliser les gens après l'épreuve collective qu'avait constitué le confinement et la casse sociale qu'il y a eu derrière, avec tout le côté des inégalités aussi qui ont frappé en plein. On sent aujourd'hui la capacité de la population à se remobiliser, on le voit sur Gaza, par exemple, mais sur la question climatique, ce qui, moi, me frappe, pour avoir pu aller rencontrer plein de publics dans le monde syndical, dans des écoles à Molenbeek, en essayant de rencontrer des chefs d'entreprise aussi. C'est que la très haute conscience de la nécessité qu'il faut que ça change, l'énorme majorité de la population. Regardez les sondages, les eurobaromètres, etc. Les gens, aujourd'hui, ils sont convaincus qu'il y a un grave problème, qu'il va falloir qu'on bouge, et ils sont prêts à bouger. Il y a une petite minorité qui fait beaucoup de bruit et qui, malheureusement, a pris le pouvoir, et ce n'est pas seulement en Belgique, aujourd'hui, en Europe, le rapport de force politique est dominé par des forces politiques qui retournent en arrière. Mais l'envie de changement, elle est toujours là aujourd'hui. Et notre boulot, et là, je parle de notre côté de société civile, mais je pense que ça vaut aussi pour un parti politique, c'est de nous réveiller, d'arrêter de lécher nos plaies sur le fait qu'on est dans un moment difficile, et de se remobiliser. Parce que si on ne se remet pas massivement dans la rue, on va continuer le retour en arrière. Et donc, La prochaine échéance, c'est le 5 octobre. Il y en aura d'autres après. Et il y a plein de façons de se mobiliser. Il n'y a pas que les grandes marches pour le climat. Mais nous n'avons pas d'autre choix que de dire stop et de montrer la force citoyenne pour qu'on arrête le retour en arrière, puisque aujourd'hui, on n'est pas seulement dans une pause environnementale. Aujourd'hui, l'Union européenne en particulier est en train de détruire ce qu'elle avait construit pendant la législature précédente. Et si on veut arrêter ça, il n'y a juste pas d'autre choix. Je peux pas, c'est quelque chose que j'ai souvent dit quand j'étais président de la coalition climat. Je ne peux pas vous promettre que ça va changer si on descend dans la rue. Mais je peux vous promettre une chose, c'est que si on n'y descend pas, ça ne changera pas.
Et donc on voit à quel point l'écologie populaire porte ses fruits jusque très tard le soir, jusqu'au petit matin. Yamina Saeb, je me permets de passer à vous. Pendant des années, évidemment, le mouvement écolo et nous aussi comme parti, nous nous sommes référés à vos travaux, aux travaux des scientifiques, aux travaux du GIEC pour sonner la sonnette d'alarme. Mais aujourd'hui, c'est vrai, il faut bien le constater, sans parvenir à rallier largement. Et donc, il semble que argumenter, expliquer, se référer aux faits, à la vérité scientifique, ne suffit plus. J'ai envie de demander ici plutôt à la scientifique, à la professeure d'université que vous êtes, comment est-ce qu'on peut opérer un changement ? Que faut-il de plus ?
Bonjour, merci pour l'invitation. Alors. Je fais un exercice avec mes étudiants à Sciences Po. Je vais vous parler de l'exercice que je fais et vous allez voir la conclusion. C'est que j'ai imposé à mes étudiants de Sciences Po qui sont en master en politique environnementale de lire le résumé pour décideurs du rapport du GIEC, des trois rapports, parce qu'il y a trois rapports dans un cycle, et du rapport de synthèse. Et je dis que je l'ai imposé parce que je savais que c'était illisible, indigeste et incompréhensible. Et je fais partie des auteurs de ce rapport-là, de l'un des trois rapports. Et donc, j'impose à mes étudiants de lire ça, je les accompagne dans la lecture du rapport. C'est des étudiants de Sciences Po, c'est des étudiants qui ont un très très bon niveau. Il y en a très peu qui viennent des quartiers populaires, par exemple. C'est des étudiants qui ont fréquenté les meilleurs lycées, les meilleures écoles de France, et d'ailleurs, parce que c'est international, notre master. Et la conclusion, c'est que les étudiants n'y comprennent rien. Donc, j'ai pu vérifier pendant 3 ans que c'est illisible, même pour les gens, les étudiants de Sciences Po, de ce master-là, quand ils sont diplômés, ils deviennent conseillers des députés, des eurodéputés, des ministres. Certains, plus tard, deviennent des ministres, peut-être même des présidents de la République plus tard. Et donc, je me dis, c'est à eux qu'on s'adresse. En fait, c'est ce qu'on écrit, nous, c'est pour eux, c'est pour qu'eux le traduisent après en politique. C'est même pas pour aller le traduire vis-à-vis des citoyens. Je laisse tomber ça de côté pour le moment. Et la conclusion de tout ça, c'est que on ne sait pas écrire. On ne sait pas écrire. En fait, le résumé pour décideurs, enfin, le rapport du GIEC, il est écrit par des scientifiques pour des politiques, mais en fait, les scientifiques ne sont pas formés. Ces scientifiques-là ne sont pas formés pour écrire pour le politique. Ça, c'est le premier problème qu'on a. D'ailleurs, on va publier un article sur les conclusions de... Donc, ce que j'ai demandé à mes étudiants, je leur ai demandé de noter les questions. Donc, pendant 3 ans, je leur disais, vous me dites qu'est-ce que vous ne comprenez pas, qu'est-ce qui vous choque vraiment, etc. Et à chaque fois, je faisais intervenir des collègues, parce que moi, j'étais dans le groupe 3, des collègues du groupe 1 et 2, pour voir quelles étaient les questions des étudiants. Et après, quand j'ai fait la synthèse, je me suis rendu compte, sur 3 promotions, c'était le même flou à chaque fois qu'ils revenaient. Donc il y a un sérieux problème avec ces rapports-là. Et j'étais assez contente, dernièrement, il y a un rapport des Nations Unies qui est sorti, qui montre, j'ai pas lu le rapport, mais j'ai lu un article de Reuters qui dit que les rapports des Nations Unies ne sont lus par personne. C'est normal, ils sont indigestes, ils sont illisibles. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut revenir, quand on veut parler aux politiques, il faut parler le langage du politique. Le rapport du GIEC est censé parler aux politiques. Et donc il faut l'écrire dans le langage du politique. Moi, scientifique, je ne peux pas imposer mon langage à mon président de la République. Ce n'est pas possible. C'est l'inverse. Moi, scientifique, si je veux attirer l'attention d'Emmanuel Macron sur un sujet, je l'écris dans le sens de ce que son oreille pourrait entendre pour que son cerveau puisse agir. Et le pouvoir, il n'est pas chez les scientifiques, il est chez le politique. Donc c'est bien de faire les plateaux télé, etc. On devient star comme ça parce qu'on a contribué à un rapport, mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'action. Et il n'y a pas d'action derrière. Et il ne peut pas y avoir d'action derrière. Et ça, c'est problématique, en fait. C'est vraiment il faut qu'il y ait une remise en question de ce que l'on fait. Après, c'est même pire lorsque, quel est l'effet du rapport du GIEC? En France, on a beaucoup, en Europe, parce qu'en fait, dans le cycle du GIEC, depuis le cycle 6, les Européens sont devenus majoritaires. On parle beaucoup du GIEC, mais ça, c'est très européen, quoi. C'est très eurocentrique. En dehors de l'Europe, il y a quelques chats qui participent à droite à gauche, qui parlent de leur travail, puis basta, quoi. Et donc, voilà, c'est ça la vérité. C'est un rapport qui est censé informer le politique partout. Après, il y a la question de la représentativité dans le rapport du GIEC qui est très faible dans beaucoup de pays, etc. Après, il faut, pour qu'il y ait de la mobilisation, pour que le politique agisse, surtout dans la configuration politique dans laquelle nous sommes, c'est le néolibéralisme, c'est le marché, on détruit l'État social, on détruit... Parce que l'action climatique, elle nécessite une très forte intervention de l'État, comme des États, comme après la Seconde Guerre mondiale. On est dans une situation de crise pire que celle de la Seconde Guerre mondiale. Nous qui sommes nés après la Seconde Guerre mondiale, pour nous, moi je viens de France, donc la sécurité sociale, pour moi c'est un acquis. Parce que c'était là quand je suis née. Je sais que c'est organisé différemment en Belgique, mais pour nous, c'est un acquis. L'éducation, aller à l'école, l'école publique, pour moi, c'est un acquis. Ben, aujourd'hui, tout ça est remis en question. La question écologique, c'est la même chose. Parce que l'écologie, lorsque vous revenez à l'esprit du projet écologique, c'est un projet humaniste. Ce n'est pas le marché, ce n'est pas Total, ExxonMobil, etc., qui vont travailler sur les services essentiels. Eux, ils s'en foutent. Eux, ils sont là. Ils sont vraiment, ils sont dans le rôle. Les entreprises, elles sont dans le rôle, se faire le plus de fric possible. Celui qui n'est pas dans son rôle, c'est l'État, parce que l'État a suivi, depuis Reagan et Thatcher, ils ont suivi les entreprises. Donc, en fait, ils font tout pour augmenter le profit de ceux qui ont déjà suffisamment de fric. Et ils s'en foutent des autres. Mais là où il y a problème, c'est que c'est nous la majorité. En fait, lorsque vous comptez secteur par secteur, lorsque vous regardez... Qui sont ceux qui profitent du système actuel? Ils se comptent sur les doigts des deux mains. Même pas les deux mains, parfois, pour certains secteurs. Et à côté de ça, il n'y a pas de mobilisation. Ben, les citoyens n'arrivent pas à se mobiliser. Pourquoi? Ben, parce que les scientifiques ne parlent pas aux citoyens. Si on écrit un rapport du GIEC qui est incompréhensible par ceux qui vont conseiller les politiques, vous imaginez la distance qu'il y a entre le scientifique qui va venir vous parler de la précision de 0,01%, etc., et le citoyen ordinaire. Pour le citoyen ordinaire, qu'est-ce qui compte? Et en fait, ce qui intéresse le citoyen ordinaire est au cœur, normalement, du projet écologique, parce que l'écologie, c'est la protection. Mais ça ne ressort pas du tout. Et ce qu'on dit, c'est qu'il y a beaucoup d'enquêtes qui disent « Ah oui, dans les quartiers populaires... » D'ailleurs, une petite observation, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de gens des quartiers populaires ici. En tout cas, là, je ne crois pas qu'on soit des quartiers... Vous êtes des quartiers populaires, bon, ben, c'est bien. Ils représentent, vous êtes minoritaires, par contre. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de gens des quartiers populaires. Donc, dans les quartiers populaires, ah oui, les quartiers populaires, ils sont anti-écolo. Mais d'où ça sort, ça? Il y a eu un rapport qui a été fait en France par le groupe GATAP. C'est un rapport qui s'appelle « Les injustices climatiques ». Il est sorti l'année dernière, en septembre. Et donc, ils ont repris... les méthodologies qu'utilisent les gens brillants que nous sommes, inventées par les gens très brillants, les scientifiques très brillants. Et donc, ils ont repris ces méthodologies-là, ils sont allés dans les quartiers populaires, ils leur ont posé des questions, mais au lieu de leur parler des millions de tonnes de CO2, qu'est-ce que c'est que pour vous un million de tonnes de CO2? Dites-moi ce que c'est, faites-moi un dessin d'un million de tonnes de CO2, vous ne savez pas. Voilà, personne ne sait, même ceux qui en parlent. Et donc, au lieu de leur parler de ça, ils sont allés de leur parler de leur vie. Ben dans leur vie de tous les jours, c'est quoi les problèmes qu'ils rencontrent? Ben la pollution, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui est derrière la pollution? Eh ben, autour des périphériques à Paris, etc., eh ben, qui c'est qui subit la pollution? Ce sont bien sûr les couches les plus défavorisées économiquement. La santé, la nourriture, au lieu d'aller saouler les gens avec « Ah ouais, quand tu manges de la viande, tu détruis la planète, etc. » Mais moi, si du matin jusqu'au soir, j'ai des publicités qui me montrent que la réussite, c'est de faire un barbecue dans mon jardin, qui est situé à 50 km du centre-ville, et que j'ai besoin de la voiture pour aller faire mes courses, et que je n'arrive même pas à me payer ce barbecue-là, et d'un autre côté, il y a un écolo qui vient me dire « il ne faut pas manger de viande parce que tu pollues la planète », mais moi, je n'ai rien à cirer de cet écolo-là. Parce que moi, je suis déjà frustrée. Ce qu'on me présente comme modèle de réussite, j'y arrive pas. C'est ça la vraie vie des gens. C'était ça les gilets jaunes en France. Et ça, on n'y arrive pas. Et donc, du coup, on ne parle pas du tout aux citoyens. Donc, il ne faut pas du tout s'étonner à ce qu'il n'y ait pas de mobilisation citoyenne pour l'écologie. Mais il y aura une mobilisation, on l'a vu avec la loi du plan en France, la mobilisation qui a eu la signature, plus de 2 millions de signataires en très, très peu de temps, ce n'est pas pour des raisons écologiques, c'est pour des raisons de santé. Les gens ne veulent pas être empoisonnés. Bien sûr que derrière, il y a une question écologique. Donc, il faut savoir parler le langage de son interlocuteur.
Merci beaucoup Yamina Saeb. Et alors, ça me rappelle un moment assez intéressant vécu durant la grande enquête populaire. Donc, vous vous souvenez, entre janvier et février, on a lancé ce grand processus d'évaluation. Et je me souviens que j'étais sur la place verte à Charleroi et je rencontre une dame qui me dit « Ah, mais vous êtes d'écolo, mais moi, je suis abonné à votre newsletter et je reçois vos newsletters et parce que je me sens proche de vos valeurs. » Et elle me dit un truc de super intéressant. Par contre, je ne comprends rien à ce qui est écrit dans votre newsletter. Le langage que vous utilisez, vraiment, je pige que dalle. Moi, j'ai 60 ans et je ne vois pas du tout où vous voulez en venir. Et ça, pour moi, c'était vraiment une grande leçon. Une grande leçon. Et donc, ça, j'ai l'impression qu'on, là, vraiment, on converge tout à fait sur le besoin de simplement parler le langage des gens à qui on s'adresse. Mais alors, justement, si je peux me permettre de rebondir avec toi, Yamina, et n'hésitez pas à préparer vos questions dans le public. La perception de l'écologie aujourd'hui, en tout cas celle décrite par nos adversaires, c'est souvent une écologie punitive. Toi, tu es une grande spécialiste de la sobriété. Comment est-ce que tu fais pour, dans le contexte actuel, où bon, la sobriété n'est quand même pas dépeinte de manière très, très positive, comment parviens-tu à défendre une écologie qui reste libératrice et qui n'est pas synonyme que de contraintes et que de punitions ?
Alors moi, je ne pense pas que je défende l'écologie. Je n'utilise pas le mot écologie. Hein. Donc ça, c'est pour être clair. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a été mal utilisé. Mais question de sobriété, en France on parle beaucoup de sobriété subie, alors on m'invite souvent à des débats, sobriété subie ou sobriété choisie, madame. Mais la sobriété, alors j'explique ce que je fais, ben, je vais vous dire ce que c'est que la sobriété, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. La sobriété, c'est un principe d'équité qui permet, qui garantit l'accès, une vie décente pour tous. Je vais vous donner quelques exemples, vous me dites si vous êtes pour ou contre. Si on avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait pas eu de la précarité énergétique dans nos pays. Vous êtes pour ou contre la précarité énergétique ? Contre, donc vous êtes pour la sobriété. Si on avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait pas eu des enfants, je le sais pour Paris, mais ça doit être la même chose chez vous aussi, des enfants qui vont à l'école le ventre creux. Vous êtes pour ou contre que les enfants en maternelle aillent à l'école le ventre creux ? Contre, c'est la sobriété, donc vous n'êtes pas contre la sobriété. Si on avait eu des politiques de sobriété, on n'aurait pas protégé les petits parisiens des pollutions pour envoyer les pollutions causées par les petits parisiens aux habitants de banlieue. Vous êtes pour ou contre pour que la pollution aille chez les gens qui la produisent pas ?
Contre.
Contre, ben vous êtes pour la sobriété. Bon, est-ce que la sobriété peut être subie ? Ben non. La sobriété, elle ne peut être que choisie. Mais elle ne peut être choisie que dans un contexte démocratique. En fait, il faut en débattre. Comment on fait ça ? Parce qu'en fait, nos sociétés, il y a autre chose qu'on trouve sur la sobriété dans la science, c'est que la sobriété, c'est un principe d'organisation des sociétés. Un principe d'organisation des sociétés, là, on est venu, on a fait Paris-Bruxelles, et puis là, on est venu en voiture de Bruxelles à ici. Ben, visiblement, il n'y a pas de train pour le faire en train, quoi. Ben, ça, c'est un principe d'organisation. Donc, on se retrouve enfermé dans la voiture. Et ça, c'est une décision qui avait été prise, on n'était pas encore nés, nous, qui avait été prise après la Seconde Guerre, dans les années 60 en France. Je ne connais pas bien l'histoire pour la Belgique. Et puis là, maintenant, on se retrouve tous enfermés dans l'utilisation de la voiture. Comme si ça devient une obligation de devoir utiliser la voiture. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette obligation-là ? Ben non, lorsque vous posez la question. Ben, tout le monde aimerait bien pouvoir se déplacer autrement, mais il faudrait que cet autrement-là soit créé. Et ça, on le crée de façon démocratique, grâce aux politiques. Moi, je n'arrête pas de dire qu'au lieu de trier ces déchets, ça choque beaucoup en France, parce que la plus grande arnaque écologique, c'est le tri des déchets, mais ça, c'est une autre histoire. Au lieu de trier ces déchets, il faut aller voter et savoir pour qui voter. Et je dis aujourd'hui, ce n'est pas juste qu'il faut aller voter. Avant le vote, il faut imposer aux politiques l'orientation. L'orientation politique doit être imposée par les citoyens et non pas par les entreprises. Pas par les corporates qui sont chez Wall Street. C'est ça, la sobriété. La sobriété, Aujourd'hui, si je devais traduire ça en un seul mot en français, ça serait la réappropriation de notre citoyenneté. Autrefois, la compagnie de transport à Paris, du métro, ça s'appelle la RATP. Autrefois, nous étions des usagers de la RATP. Aujourd'hui, nous sommes des clients de la RATP, des consommateurs. Et c'est au moment où nous sommes passés de citoyens à consommateurs que nous avons tout perdu. Alors, en fonction des pays, en France, c'était pendant Mitterrand, pendant que la gauche était au pouvoir. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on a basculé complètement. On a perdu complètement notre citoyenneté. Tout ce qui s'est produit depuis le premier mandat de Mitterrand, ça avait commencé un petit peu avec Pompidou, mais en fait, ça s'est vraiment confirmé avec Mitterrand. Et donc, tout ce qui s'est passé depuis le premier mandat de Mitterrand jusqu'à aujourd'hui nous amène à avoir le Rassemblement national à l'Assemblée nationale majoritaire, enfin, qui est le premier parti, si on prend par parti, premier parti de France, et peut-être qu'on a des ministres, un ancien commissaire français, Thierry Breton, qui a appelé hier ou avant-hier à ce que le président fasse ce qu'il aurait dû faire, appeler le Rassemblement national à venir gouverner. Donc peut-être qu'on va avoir un gouvernement d'extrême droite. Tout ça, en fait, lorsque vous regardez, tout ça, ça se rajoute. Et puis après, bien sûr que les citoyens sont complètement exclus de ça. Et on a créé plein de déserts, des déserts de tout. Vous allez n'importe où en France, sauf quand vous habitez une grande ville comme Paris, vous avez tous les services essentiels à pied. Le reste, y a rien. Il n'y a pas de médecins, il n'y a rien du tout. En plus, on a des populations vieillissantes. Il n'y a rien du tout pour les populations vieillissantes. Tous ces gens-là, c'est facile. En plus, il y a aussi la télévision. On a privatisé, on a mis la communication, la télévision, entre les mains du secteur privé. C'était foutu, quoi. En fait, on a fait un lavage de cerveau et c'est devenu le résultat. Ce que nous avons aujourd'hui, c'est tout à fait normal que nous arrivions là. Et encore, je dirais que nous ne sommes pas encore arrivés au pire. Parce que le pire, c'est quand on va s'entretuer entre nous et la question climat vient juste rajouter une couche supplémentaire. Donc, et surtout, je dirais juste un autre point pour la question écolo et la question climat. Lorsque vous allez parler aux citoyens et vous commencez par la question climat et vous leur disiez « la trajectoire de la France n'est pas conforme parce qu'il y a 2% de moins, etc. » Mais qu'est-ce que c'est que ce jargon ? Qu'est-ce que c'est que ce jargon ? Vous pensez que quelqu'un qui arrive au bout du 11e jour du mois et il n'arrive plus à remplir son frigo, pensez qu'il a la tête à aller réfléchir à la trajectoire de la France sur les émissions, sur un truc complètement abstrait? La réponse est bien sûr non, quoi.
Merci beaucoup, Yamina. On passe à Nicolas. J'ai encore deux questions pour Nicolas et puis pour Patrick. Et puis on passera évidemment aux questions de la salle. Pour parler justement de la COP30 à Belém. Donc on a ces grands rassemblements chaque année. Et alors on a l'impression que de plus en plus, ces grandes COP, hein, donc ces grands rassemblements onusiens, ressemblent à des grands messes pour chefs d'État, chefs de gouvernement, amenés en jet privé, avec énormément de lobbies évidemment présents au-delà de la société civile. Est-ce que de votre côté, justement, dans la société civile, dans le mouvement climat, est-ce que ces COP restent encore importantes? Est-ce que cette COP, plus précisément en novembre à Belém au Brésil, suscite encore le moindre espoir de votre côté?
Elles sont sympas, tes questions. J'ai un peu envie de revenir sur ce que j'ai dit dans ma réponse précédente, dans le sens où, en fait, les COP, ça va pas. On voit qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas, mais en fait, il n'existe rien au monde de mieux que ce qu'on a. On sait que le multilatéralisme, le fait de mettre plus de 190 États autour d'une table par un mode de décision qui est le mode du consensus, qui fait qu'en fait il suffit d'un État, par exemple l'Arabie Saoudite ou la Russie, pour bloquer toute ambition. On l'a connu si vous avez suivi les COP, le blocage. On n'a toujours pas écrit qu'il faut sortir des énergies fossiles de façon ultra claire dans une déclaration de COP parce qu'il y a des résistances. En attendant, un monde sans COP, ce serait un monde encore bien pire que le monde qu'on a aujourd'hui. Et donc, on n'a pas d'autre choix que de continuer à faire de ces COP un moment, où les responsables du monde entier se regardent droit dans les yeux, s'engueulent dans les couloirs, se bloquent les uns les autres, mais au moins sont obligés de se rencontrer et pendant 2 semaines de ne parler que de ce sujet-là, en n'oubliant pas que dans les COP, 80% du travail, il est fait par des fonctionnaires, des techniciens et techniciennes, et qu'en Belgique, notamment, on a une super équipe de fonctionnaires qui fait super bien son boulot sur le climat, et que la partie la plus visible, c'est les discours des chefs d'État qu'on a maintenant mis au début des COP pour que, justement, ils ne viennent pas polluer complètement la fin des négociations, comme on l'avait connu dans le passé, hein, à Copenhague, par exemple. J'y étais. On a vraiment vu, quand les chefs d'État sont arrivés, que la négociation s'est paralysée, quoi, parce qu'il y avait tout le show, parce que Sarkozy, Obama, Zapatero, Angela Merkel débarquaient. Donc maintenant, on met les chefs d'État au début, et puis après, il y a des gens qui font le boulot, et je pense que ça reste absolument nécessaire. Maintenant, les COP n'ont plus le rôle qu'elles avaient avant l'accord de Paris. Avant, le but des COP, c'était de négocier un accord mondial sur le climat. On l'a maintenant. Il est imparfait, mais il nous donne un socle pour l'ensemble de l'humanité sur comment on va avancer. Les COP, c'est des rendez-vous avec des enjeux différents d'une COP à l'autre. Et je voudrais insister sur l'enjeu de la COP qui arrive maintenant. C'est la COP de l'ambition. Autant l'année passée, c'était la COP du financement, et vous savez à quel point la décision a été catastrophique. Les pays riches ont lâché du bout des doigts ou du bout des lèvres un montant totalement insuffisant, hein, 300 milliards de dollars, alors qu'on estime que le vrai coût annuel, c'est 1000 milliards. Mais en plus, ils ont donné une définition tellement vague qu'on peut y mettre tout et n'importe quoi. Cette année, l'enjeu, c'est l'enjeu de l'ambition, c'est-à-dire l'enjeu de combien on va réduire nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2035. Et donc, en fait, cet enjeu-là, il ne va pas se négocier. C'est un enjeu par rapport auquel les États doivent, avant la COP, dire, les uns après les autres, ils vont dire, moi, pour 2035, je réduis d'autant. C'est ce qu'on appelle les contributions déterminées au niveau national, pour faire du jargon que même les responsables politiques ne comprennent pas. Et en fait, notre enjeu aujourd'hui, ce n'est pas tant l'enjeu de la COP que de l'avant la COP. On a un mois et demi pour pousser la Belgique à se positionner sur l'objectif, alors en Europe, c'est l'objectif 2040, pour qu'on réduise nos émissions d'au minimum 90%. Donc on ait fait les 9 dixièmes du chemin pour 2040. La Commission a proposé ça, mais elle a ouvert des failles en disant on va faire moins 90%, mais on va aller acheter dans les pays pauvres des droits de polluer, on va capter du carbone dans l'atmosphère, etc. Et notre enjeu maintenant, pour nous, société civile, c'est la pression qu'on doit mettre sur le gouvernement fédéral et les gouvernements des trois régions, sachant qu'on sait qu'il y en a une où on est en affaires courantes, mais pour que la Belgique défende une position ambitieuse au niveau européen, pour qu'on fixe une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de moins 90 d'ici 2040. Et pour moi, c'est, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, de là vient l'importance de se mobiliser. C'est-à-dire que, je reviens de nouveau en arrière, 2018, première grande mobilisation climat, la revendication clé, c'était il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% pour 2030 et viser la neutralité carbone en 2050. Et je vais être très honnête avec vous, quand j'ai dit ça, le 2 décembre 2018, je n'y croyais absolument pas. On jouait notre rôle de dire, c'est ce que dit la science, il faut réduire de 55 pour 2030 et la neutralité carbone en 2050. Il aurait même fallu faire plus, mais bon, voilà, c'était la demande qu'on avait fixée. Eh bien, un an plus tard, Ursula von der Leyen déposait exactement ces objectifs-là. Ils ont été adoptés par l'Union européenne. De nouveau, je reviens, pourquoi ? Parce que c'était devenu trop cher politiquement pour les partis de l'ensemble du spectre politique de nous dire non. Pourquoi ? Parce qu'on s'était mobilisé. Et donc aujourd'hui, il va y avoir des pressions pour revoir cet objectif à la baisse, soit pour rajouter des failles et qu'on puisse faire un tas d'échappatoires pour ne pas vraiment réduire les émissions, soit pour carrément dire en fait on ne fait pas moins 90, on fait moins 80. Et si ça ne leur coûte pas trop cher, entre la pression des lobbies qui est gigantesque et notre pression qui n'est pas suffisante, on va retourner en arrière. Et donc je reviens sur la même chose. Si on ne fait pas entendre une voix citoyenne extrêmement forte, l'objectif 2040, d'où va venir l'objectif 2035 à la COP, il sera totalement insuffisant. Donc cette année, j'ai envie de dire, la COP, elle se joue avant la COP, elle se joue dans le mois et demi qui vient, d'où l'importance des mobilisations.
Merci beaucoup, Nicolas. Peut-être encore une question pour toi, Patrick. parce que l'un des grands enjeux justement de cette COP à Belém, c'est aussi la justice climatique. Et hier soir, on discutait de comment est-ce qu'on fait en sorte que cette transition écologique ne soit pas qu'au profit d'une poignée d'individus ultra privilégiés. C'est vrai que souvent, c'est une perception qui nous colle à la peau. Sont juste des gauchos urbains, ultra diplômés, complètement déconnectés des réalités sociales, des zones rurales ou des quartiers comme, populaires, comme on en parlait tout à l'heure. Comment est-ce que tu crois que nous pouvons répondre à cet appel ?
Je pense qu'il faut revenir au début, c'est-à-dire fouiller un peu plus peut-être cet aspect populaire. Je pense qu'il y avait trois mots qui me viennent à l'esprit, c'est se faire comprendre, on en a parlé un peu tout à l'heure, se faire aimer, j'irais même jusqu'à séduire. Parce que tout à l'heure, tu parlais, Yamina, du libéralisme, il est au service de gens qui ont déjà de l'argent. Alors comment ça se fait qu'ils arrivent à se faire aimer ? C'est quand même bizarre. On n'est pas des richards les uns et les autres, pourtant, il semblerait qu'on adore ça. Donc je pense que le libéralisme était très intelligent. Il a su se rendre populaire, donc c'est une vraie réussite. Et ça serait de mésestimer que de penser que c'est des gens qui aiment l'argent, etc., etc. Ben, bien sûr, oui, qu'ils l'aiment. Mais je veux dire, il y a une philosophie aussi derrière. Et nous, en face, qu'est-ce qu'on a à proposer ? Si on analyse un peu la façon de manipuler du libéralisme, elle est finalement très, très factuelle, très pragmatique. Elle fait que de jouer sur nos ressorts humains. Le libéralisme, il a promis le bonheur, hein, le paradis. Vous aurez plus de vacances, plus de biens, plus de ci, plus de cela, etc. Et en plus de ses promesses relativement vagues, il a su s'insérer jusque dans l'intimité de nos foyers, à tel point que quand on respire l'air, on a l'impression qu'il a toujours été là. Donc je pense que la bataille culturelle est là. C'est-à-dire qu'il faut faire sentir, finalement, par tous les moyens, qu'ils soient culturels, économiques, politiques, scientifiques, que, quelque part, l'écologie a toujours été là. C'est pour ça que dans l'écologie culturelle, on est très attaché à ces bouts d'histoire que je racontais tout à l'heure. On pourrait les multiplier. Mais aussi dire qu'il ne faut pas vouloir jouer les purs. Il faut bien entendu séduire les gens. Le libéralisme a séduit parce qu'il a eu raison sur une chose. Il a promis un avenir. Il a promis un projet de société. Et même si on ne l'aime pas, je vois mal comment l'écologie pourrait gagner sans promettre un projet de société. Parce qu'on est bien évident que maintenir, je ne sais pas, le réchauffement climatique à 1,5 degré ou même plus, à monter en 2 ou 3, ce n'est pas un projet de société, c'est juste une nécessité. Mais où est le projet de société ? Je pense que les gens, ils ont du mal à le circonscrire, ce projet. Et que nous, on a un travail intellectuel et un travail aussi de promesses dans lesquelles on doit s'engager, quitte parfois à se tromper, je dirais. Si l'écologie fait trois promesses, qu'il y en a une qu'elle n'arrive pas à tenir, mais qu'elle tient les deux autres, ça, c'est acceptable. Donc je pense qu'il faut absolument s'engager dans le projet de société qui va au-delà des choses contingentes, de l'immédiat, finalement, pour se projeter beaucoup plus loin. Je crois aussi que les gens attendent ça pour y croire, parce que je crois que beaucoup y croient, en vérité. Mais au dernier moment, au moment de voter, ils disent « Oui, mais où est le projet derrière ça ?» Et pour eux, c'est beaucoup plus vague. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on se mette en question à ce niveau-là. Nous, dans l'écologie culturelle, pour essayer de répondre concrètement à ça, parce que quoi qu'étant artiste, j'aime beaucoup rêver, oui, mais j'aime beaucoup aussi que ça s'inscrive dans la réalité, quoi. On a créé des maisons d'écologie culturelle en France, il y en a 13 actuellement, et on en a une trentaine d'ici 3 mois, ça va très très vite. On a fait ça avec l'aide de l'ADEME, donc une association de développement d'écologie en France. Enfin, je résume un peu sa mission. Et puis aussi l'Office français de la biodiversité. Parce qu'ils se sont dit, surtout l'Office français de la biodiversité, que leurs agents, qui sont un peu les flics de l'environnement, ils se font agresser verbalement et physiquement de plus en plus, et surtout dans les campagnes. Moi, je suis parisien d'origine, mais j'habite en campagne depuis au moins 20 ans, donc je le vois bien quasiment sous mes fenêtres, quoi. Donc comment faire passer finalement cette logique des interdictions, de la réglementation qui est pour le bien-être de tous, mais qui ne passe pas autrement ? Nous, on s'est dit, en fait, en France, il y a eu André Malraux qui, après-guerre, a créé des maisons de la culture pour que toute une, chacun, ait accès à la culture, quel que soit son niveau social, en proximité. Nous, on dit maintenant, avec une maison d'écologie culturelle, l'enjeu, c'est que toute une, chacun, au fin fond du territoire, ou dans un quartier, petite, moyenne, grande ville, capitale, ait un accès écologique qui soit diversifié. C'est-à-dire pas seulement idéologique ou scientifique, mais aussi sensible. Ça peut passer effectivement par des rencontres comme on fait aujourd'hui, parce qu'elles sont conviviales, et je pense que tout le monde peut y avoir accès, mais aussi des ateliers sur la permaculture, mais aussi des spectacles, mais aussi des choses participatives, de la poésie, etc. Et dans ces maisons d'écologie culturelle, ce que je crois être une première réussite, ça fait seulement 2 ans qu'on a lancé l'idée, on a des gens très très différents qui nous ont rejoints. Des particuliers, des associations qui sont sur les territoires ruraux, qui sont là depuis 15-20 ans à travailler sur le territoire, mais aussi des institutions, par exemple Sciences Po, Caen est devenue maison d'écologie culturelle, mais aussi les 11 musées de la ville de Strasbourg, etc. Moi, je crois à ce cocktail social. Comme je l'ai dit, moi, j'ai été élevé dans un quartier populaire où la diversité culturelle était là sous mes yeux et ça m'a enrichi, j'en suis heureux. Enfin, pour moi, c'est une partie extrêmement fondatrice de ma culture. Il faut aussi qu'on donne un accès à l'écologie qui soit diversifié par tous les moyens et par tous les biais. Parce que la société, c'est ça. La société des CSP+, la société des pianistes, les entre-soi, on sait très bien que ce n'est pas nous qui avons sauvé le monde. C'est tous ensemble. Donc, c'est l'objectif des maisons d'écologie culturelle. Je pense qu'on commence à l'atteindre et que quelque chose se passe, en fait. Bon, voilà.
En tout cas, je me réjouis, ça donne vraiment envie. Hein. Je me réjouis de venir vous rendre visite dans l'une de ces maisons d'écologie culturelle. Je crois qu'Aminat avait encore un petit truc à ajouter.
Oui, c'était par rapport à ce que disait Nicolas pour la COP et les objectifs climat. En fait, on vient de sortir un outil sur le site du laboratoire des sobriétés où on a calculé quand est-ce que chaque pays du monde devrait être ou aurait dû être, dans notre cas, on aurait dû être, zéro carbone. Eh bien, tous les pays de l'Union européenne auraient déjà dû être zéro carbone. Donc, en fait, quand on va aller négocier 90% pour 2040, etc., on est déjà en retard parce que on est déjà c'est autre chose qu'il faudrait qu'on fasse, nous, Européens, parce que les enfants qui sont en train de naître, là, maintenant, quelque part sur le sol européen, c'est des enfants qui naissent avec une dette carbone, malheureusement. Et ça, c'est possible uniquement parce que on se fixe des objectifs complètement déconnectés de la réalité physique, de ce que la planète peut absorber comme émissions, et qu'on étouffe le Grand Sud. Donc on est toujours là dans l'étouffement du Grand Sud, et la transition telle qu'elle est conçue aujourd'hui par l'Union européenne, c'est une transition extractiviste. Quand on me parle de la voiture électrique, par exemple, oui, c'est bien, sauf que les matériaux pour faire la voiture électrique, on les ramène d'Afrique, et on ne se pose pas du tout la question si c'est des petits-enfants qui sont en train de ramasser les matériaux, là, ou pas. Et donc, du coup, je pense que l'enjeu de cette COP-là, moi, je ne crois pas trop aux COP, hein, mais je pense, pour ceux qui y croient, ceux qui vont y aller, je pense que l'enjeu fondamental, ça va être la question d'équité et de justice vis-à-vis des jeunes générations, parce que là, on est en train de compromettre la vie sur Terre pour les jeunes générations vis-à-vis du Sud et vis-à-vis et aussi les inégalités dans nos pays aussi, parce que même dans nos pays, on l'a vu, à chaque fois qu'il y a de grands dégâts liés au climat, ceux qui payent, ce sont bien sûr les classes les plus démunies sur le plan économique.
Merci beaucoup Yamina. Alors, on a déjà des questions dans le public, je vois quelques mains levées. On va peut-être commencer par toi Géraldine.
Bonjour, merci beaucoup pour vos interventions. Sur la question de la sobriété, je me demandais, Yamina, si tu pouvais nous parler un petit peu plus de l'observatoire que tu as fondé, et aussi si vous développez des mesures aussi concrètes, en fait, de ce que devrait être la sobriété si elle était adoptée par nos sociétés.
Oui. Alors, on a créé en février 2024 le Laboratoire mondial des sobriétés, qui est basé à Paris, mais avec des laboratoires nationaux. Parce que en fait, la sobriété, elle est bottom-up, elle doit venir du terrain. Ça ne peut pas être des choses qu'on imagine à partir de Paris pour toute la France, et encore moins à partir de l'Europe pour le reste du monde. Et le premier laboratoire national qui vient de se créer, c'est le laboratoire suisse. Nous travaillons avec des collègues belges, donc je pense que le deuxième laboratoire qu'on va avoir est très probablement le laboratoire belge. Il y a une condition pour les laboratoires, c'est qu'ils doivent être adossés à une université, enfin un centre de recherche, parce que ça doit être science-based, étant donné tous les rejets que l'on vit, etc. Et après, on aurait aussi, normalement, l'année prochaine, en 2026, si les financements sont confirmés, on devrait avoir un laboratoire européen pour lequel on est en train de discuter de l'accueil dans une université belge. Et celui-là serait à Bruxelles. Le laboratoire européen et le laboratoire belge peut être n'importe où, en fait, en Belgique. Alors, sur quoi on travaille ? On a d'abord travaillé sur des outils, comme l'outil carbone dont je viens de vous parler, pour montrer ce qu'est la sobriété. Parce que les gens n'ont pas compris. En France, on parle beaucoup de sobriété parce que c'est dans la loi, mais on n'a rien compris à ce qu'est la sobriété. Et donc, du coup, la sobriété, comme c'est une question d'équité, de justice et d'équité, donc qu'est-ce que ça signifie dans la vie de tous les jours ? Le premier outil, c'est l'outil carbone dont je vous ai parlé. Le deuxième outil qu'on va sortir à la fin du mois, c'est un outil qu'on appelle European Wellbeing Index. Parce que dans la sobriété, il y a la limite supérieure qui est les contraintes physiques de la planète. Et puis après, il y a la limite inférieure, c'est le bien-être de tous. Et là, on regarde quelle est par décile. Et on regarde, par exemple, avec tous les indicateurs qui existent dans les bases de données européennes, on regarde quel est le niveau de satisfaction, enfin, les services qui sont fournis aux citoyens, où est-ce que ça existe, où est-ce que, qui a accès aux services essentiels. Et on voit, bien sûr, tout de suite que les déciles les plus hauts, ben, ils ont accès à tout. Bien sûr qu'ils sont satisfaits de leur vie, eux. Et puis les déciles d'en bas, eh ben, pratiquement dans tous les pays de l'Union, ne sont pas satisfaits de leur vie. Et comme ça, on a une comparaison. Et avec ça, on espère influencer le cycle européen des politiques. Et étant donné ce qu'on vit en ce moment, donc notre point d'entrée n'est pas du tout la question climat, bien que moi je vienne de la question énergie-climat. Notre point d'entrée, c'est ce que les politiques d'aujourd'hui sont capables d'entendre, c'est la sécurité de l'Union européenne. La sécurité dans tous les sens, la sécurité et la protection. Parce que la sobriété, en vérité, c'est une politique de protection qu'il y a derrière. Et donc la sécurité, ça, ils sont capables de l'entendre. Et on espère qu'avec ça, mais on aura besoin de la société civile, on ne pourra pas le faire tout seul, que tout le monde se mobilise pour faire entendre ce que la sobriété peut apporter. Si on avait eu des politiques de sobriété, aujourd'hui, si je reviens sur la précarité énergétique, parce que c'est un sujet sur lequel j'ai bossé, la précarité énergétique, elle est le résultat de plusieurs politiques. D'abord, on a très très mal construit après la Seconde Guerre. On avait construit dans l'urgence, donc nos bâtiments, c'est des passoires énergétiques ou alors c'est des bouilloires l'été. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'avec la libéralisation du secteur de l'énergie, eh ben, on a mis en compétition l'énergie, les ressources, le supply de l'énergie. Et donc, du coup, ce que les gens ne savent pas en général, c'est que plus vous consommez, moins cher est l'unité d'énergie que vous consommez. Ça veut dire que les plus démunis, ceux qui consomment le moins, payent le prix le plus élevé par unité consommée. Et donc, ils se retrouvent en situation de précarité, naturellement. Et après, la troisième dimension, c'est la dimension travail. Parce que dans tous les débats écolos, en général, les travailleurs ne sont pas là. Donc c'est comme si qu'on allait faire la révolution, enfin c'est une révolution qu'il faut qu'on fasse, mais sans les travailleurs. Et en fait, on a précarisé le travail dans tous les pays de l'Union. Souvenez-vous, l'Allemagne, quand ils ont créé le travail à 1 euro, donc ça c'est la grande puissance européenne, et donc on a précarisé le travail et on a ubérisé les citoyens, parce qu'on est tous, on a imposé l'ubérisation de l'activité professionnelle, et la combinaison de ces trois facteurs a... qui crée la précarité énergétique, pas juste la précarité énergétique, mais toutes les autres précarités sont liées en fait. Et ce qu'on veut montrer par là, c'est que les politiques de sobriété, ce sont des politiques qui vont s'attaquer aux causes de ces précarités-là. Il faudra les éliminer. L'histoire de, si je prends l'électricité, ben normalement, plus vous consommez, plus c'est cher pour vous. Normalement, on devrait avoir une limite de combien on va consommer, mais comme on est dans un monde où on ne peut pas avoir de limite, donc du coup, plus vous consommez, plus... Et le plus important, c'est que chacun ait suffisamment pour bien vivre. Donc il n'est pas normal que certains de nos concitoyens vivent dans le froid ou dans le chaud, dans le froid l'hiver ou dans le chaud l'été. C'est ça que ferait la sobriété.
Merci beaucoup. On a une question ici.
Oui, merci pour le débat très, très, très intéressant. Une question pour Nicolas. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. 2018-2019, ça a changé le monde. Ça a changé, ça a fait l'histoire. Mais les jeunes qui ont été protagonistes n'en savent rien. Ils sont passés à faire d'autres choses, ont été travailler. Personne ne leur a dit « vous avez gagné ». Ils n'ont aucune idée qu'ils ont changé le monde. Moi, je parle souvent avec des jeunes, ils sont sans espoir, ils savent rien de ces grands résultats qu'ils ont obtenus, de tout à fait de ce qui s'est passé au niveau européen. Et donc, maintenant, on est en train de commencer à nouveau, et on a la vague contre nous, et c'est même encore plus difficile. Donc, comment éviter de faire cette erreur, tout à fait, de ne pas restituer les résultats à ceux qui sont engagés dans la première place?
Alors, je suis un peu moins pessimiste sur les jeunes qui sont descendus pour le climat. C'est-à-dire que il y a autant de diversité que de jeunes qui sont descendus pour le climat. Il y en a une partie qui sont là ici aujourd'hui, qui étaient dans la rue en 2018-2019. Comment ? Mais là, ils ont arrêté d'applaudir, donc ils ne nous écoutent plus. Mais donc, il y a toute une série de jeunes qui sont restés très investis, mais dont toute une partie aussi, ils ont changé de mode d'action et ils ont diversifié leur combat. Et moi, je trouve super intéressant le parcours de plusieurs des jeunes qui ont été les leaders du mouvement climatique, qui sont descendus dans la rue avec un message un peu basique au départ, qui était « il faut agir pour le climat d'urgence », et puis qui, petit à petit, ont compris toute la complexité qu'on a analysée dans plein de conférences ici, la complexité du problème. Il ne va pas suffire de se dire qu'on va réduire les émissions. On doit changer fondamentalement nos modèles de société, et donc ça veut dire un tas d'autres combats à mener. Et toute une partie de ces jeunes, ben, ils restent mobilisés. Maintenant, c'est clair qu'il y a une partie des jeunes qui sont descendus dans la rue à ce moment-là et qui ont vraiment eu une impression d'échec derrière. Et à plusieurs reprises, je me suis retrouvé dans des classes, alors plutôt avec ceux qui suivent, quoi, ceux qui sont maintenant en fin de secondaire, et qui ont très fort ce discours-là. De dire, en fait, monsieur, nous, on est vraiment convaincus qu'il faut agir, qu'il faut faire des choses et tout, mais de toute façon, les politiques, ils ne nous écoutent pas, ils parlent un langage qu'on ne comprend pas, et descendre dans la rue, ça ne sert à rien. Et donc, je fais notre autocritique, je pense qu'on n'a pas assez dit tout ce qu'on avait gagné. Parce que c'est une maladie de la société civile que de toujours vouloir plus, de toujours se plaindre et de toujours être dans le combat suivant et on ne célèbre pas assez nos victoires. Et le résultat de ça, c'est qu'après, le lendemain, quand on détruit ce qu'on avait construit, en fait, parfois, les gens n'ont même pas vu les victoires qu'on avait obtenues pour se battre avec nous. Je vais prendre un exemple très, très concret. Moi, j'ai passé 15 ans avec des milliers d'autres personnes à me battre pour qu'il y ait une directive en Europe, qui impose aux multinationales de rendre des comptes sur la façon dont elles respectent les droits humains dans leur chaîne de valeur. Qui, ici, a entendu parler de la directive sur le devoir de vigilance ? Quand même, une partie de la salle. Vous allez demander, dans une école secondaire, qui en a entendu parler ? Personne. Donc, quand on a gagné ça, alors on a essayé de le dire, d'en parler, tout ça, c'était une victoire immense en fait. Alors la directive était insuffisante, mais c'est des décennies en fait de combat pour rendre les multinationales responsables. 6 mois plus tard, en 2 semaines, la Commission européenne a jeté par terre ce que la Commission dirigée par la même présidente en plus précédente avait construit. Et en fait, de nouveau, on n'a pas le rapport de force aujourd'hui pour se battre, parce qu'en fait, les gens ils savent même pas de quoi on parle, quoi. Et donc, oui, je pense que nous avons un rôle. On doit sérieusement se questionner de notre côté, comme on se questionne ici d'un autre côté de la société, dans la société politique. On doit sérieusement s'interroger sur comment on raconte l'histoire aux gens des combats qu'on est en train de mener. Et je vais tout à fait aller dans le sens de ce que tu disais il y a un instant. Comment chacun des combats qu'on va mener, par exemple, là, cette semaine, jeudi, on vous invite d'ailleurs, on organise une mobilisation contre l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Il faut qu'on aille raconter à tout le monde pourquoi cet accord-là, il va tuer et l'agriculture, et le climat, et les emplois décents, etc. Ramener en permanence les combats concrets qu'on mène à un projet de société, ça me semble essentiel. Mais je n'ai pas la recette toute faite pour y arriver, et je pense vraiment qu'on a beaucoup, beaucoup de boulot pour arriver à être entendu hors de nos premiers cercles, quoi.
On a encore le temps pour 2-3 questions. Peut-être prendre ces 2 questions. Allez, ah, mais tu as le micro, ouais. C'est parfait, vas-y.
Donc moi, je suis un de ces jeunes qui a du mal à garder espoir, même si j'ai vu ce qui s'est passé en 2018, parce qu'en effet, j'ai l'impression que l'écologie est complètement passée à la trappe aujourd'hui dans toutes les décisions. Et moi, ça m'attriste très fort. Parce que c'est pour ça que je me suis inscrit d'ailleurs chez l'école, parce que j'en ai marre de voir ces politiques qui ne bougent pas. Et donc je me demandais si la COP 30 de Belém, qu'est-ce que je pouvais en attendre moi en tant que jeune. Parce que je trouve que, enfin, j'aimerais beaucoup qu'on déclare l'état d'urgence climatique mondiale. Peut-être que ça réglerait en tout cas une partie des choses. Mais moi, voilà, je me demandais qu'est-ce que je pouvais m'attendre en tant que jeune à cette... Qu'est-ce que je pouvais attendre de cette COP 30 en tant que jeune ? Est-ce que déclarer l'état d'urgence climatique mondiale est un des plans de cette COP ou pas ?
Merci en tout cas d'abord de nous avoir rejoints et surtout pour ton engagement vraiment qui force le respect. Je ne sais pas qui veut répondre, Nico ?
Brièvement, malheureusement non. Donc on n'obtiendra pas ça à la COP parce que comme je l'ai expliqué tout à l'heure, en fait... Pour qu'il y ait une décision à la COP, il faut que tous les États du monde se mettent d'accord. Et donc, on doit trouver ce juste équilibre entre dire notre colère sur le fait que les COP n'existent pas et en même temps pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'on en a besoin. Et ce n'est pas tous les jours facile, mais je pense que cette COP-ci, elle a au moins un intérêt par rapport à toutes les dernières COP qu'on a connues. pour la première fois depuis Glasgow, en 2021, la COP n'est pas organisée par une dictature pétrolière ou gazière. Elle est quand même organisée dans un pays qui produit énormément de pétrole et avec un gouvernement qui a beau être progressiste, il est tout à fait développementiste et tout à fait dans l'extractivisme, etc., le gouvernement Lula. Mais au moins, on est dans une démocratie. Et donc, pour la première fois depuis longtemps, ça va être une COP où nous, les mouvements sociaux, on va pouvoir se faire entendre. Alors, on doit faire notre job ici en Belgique. Hein, j'ai déjà assez parlé du 5 octobre et de la nécessité d'être là le 5 octobre. Mais je pense que notre rôle aussi, ça va être de faire entendre la voix des mouvements sociaux du Brésil, d'Amérique latine, les voix des autochtones, etc., qui vont pouvoir se faire entendre. Parce que les COP, c'est ça aussi. C'est le moment où on peut faire entendre la voix des citoyens et citoyennes vers les gens qui négocient à l'intérieur. Et en fait, on n'a pas pu le faire. Ça a été terrible, quoi. L'Égypte, puis c'était le Qatar, puis c'était l'Azerbaïdjan. On était dans la répression totale de toute voie alternative, même dans l'enceinte de l'espace de négociation, quoi. Et donc, ce que je peux vous inciter à faire, en tout cas, c'est donc évidemment participer aux mobilisations en Belgique, mais aussi, au moment de la COP, faisons entendre la voix de la société civile, des mouvements sociaux du Brésil, et je pense en particulier à la voix des autochtones d'Amazonie.
Alors, je suis professeur et je donne un cours de transition écologique à des jeunes qui ont 17-18 ans, et j'espère que vous pourrez m'aider. Alors pour ça, en fait, j'aimerais reposer la question centrale d'aujourd'hui, à savoir qu'est-ce que l'on peut attendre de cette COP30 à Belém, mais sous l'angle suivant, c'est-à-dire que, si j'ai bien compris M. Van Nuffel, le mieux que l'on puisse attendre de cette COP, ce sont certaines déclarations ambitieuses. Mais alors ma question, c'est que peut-on attendre d'une déclaration ? Par exemple, il y a quelques années, les États-Unis avaient adopté les objectifs de l'accord de Paris. Quelques années plus tard, ils ont déclaré sortir des objectifs de l'accord de Paris, parce que ce ne sont que des déclarations, finalement. Et ça, mes élèves, mes jeunes, ils se demandent vraiment, bon, ben, c'est bien toute cette déclaration, éventuellement ambitieuse, mais qu'est-ce que ça peut nous garantir, en fait, comme action ?
Donc, pendant longtemps, on a, jusqu'à Paris, l'aspect central, c'était négocier l'accord de Paris. L'accord de Paris, ce n'est pas juste une déclaration. C'est un accord insuffisamment contraignant, mais qui est contraignant quand même. C'est vrai qu'il y a eu une entourloupe des États-Unis en 2015. En fait, Barack Obama savait qu'il n'arriverait pas à faire passer un traité international au Congrès. Et donc, il a négocié un type d'accord qui lui permettait de ratifier par décret présidentiel. Et donc, c'était à court terme un tour de passe-passe qui était bien vu, parce qu'au moins les États-Unis entraient dedans, mais évidemment ça entraînait ce à quoi on a assisté. Trump est arrivé au pouvoir un an plus tard, ils ont quitté. Biden est revenu, ils sont revenus. Trump est revenu, ils sont partis. Et on verra ce qui se passe en 2028. Donc on a un vrai problème là de contrainte à rester ou pas. Mais quand on est dans l'accord lui-même, il y a quand même des obligations légales. Pour moi, le cœur de cet accord de Paris, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il pose un socle en fait, une base pour mener des politiques climatiques. Mais les politiques climatiques, elles ne seront jamais dans l'accord de Paris. Elles sont dans des directives européennes, des lois et des décrets, ici en Belgique, en Wallonie, des ordonnances à Bruxelles, et les politiques qui sont menées dans chaque commune, avec des pistes cyclables, isoler des logements, etc. etc. La transition, elle ne va pas se faire aux Nations Unies. La transition, elle se fait très concrètement dans des politiques locales. Mais pour ça, il faut que les États se poussent les uns les autres. Depuis 2015, il y a d'abord eu une phase où on a négocié la mise en œuvre de l'accord de Paris. Jusque vers 2021-22, on négociait le manuel des procédures, si vous voulez. Donc les COP étaient encore des lieux vraiment de négociation de ce qu'on appelle le Paris Rulebook, qui est vraiment un manuel des procédures pour se dire, OK, on interprète comment tel article, qui va devoir faire quoi, etc. Maintenant, on est entré dans une nouvelle phase dans les COP, où en fait, on négocie plus tant que ça, en dehors du fait qu'on négocie une déclaration finale, qui, elle, n'est pas contraignante, c'est un texte politique. Qu'est-ce qui est intéressant à la COP ? Un, mais il y a quand même cette déclaration qui permet, année après année, et malheureusement trop lentement, d'augmenter la pression pour que les politiques soient plus ambitieuses. Et alors, deuxièmement, de plus en plus, les COP sont devenus ce que j'appelle des moments d'émulation, où les États se défient les uns les autres en disant « Ah ben, on va faire un accord des gens qui sont ambitieux sur le méthane, par exemple. » Et donc, il y a un accord, je crois que c'était à Glasgow, sur le méthane. D'autres qui disent « On va faire un accord sur la sortie du charbon. »
et ils se poussent les uns les autres. Et puis parfois, ça donne aussi lieu à des engagements intéressants. Par exemple, l'Indonésie, c'était il y a 2 ans, je pense, à la COP, a dit, l'Indonésie donc, qui a un modèle énergétique totalement basé sur le charbon, ou très fortement basé sur le charbon, a dit, nous, on va phase out, on va sortir du charbon, mais on veut des sous. Et donc, elle a négocié, elle est arrivée à la COP en disant, on est prêt à y aller, mais pays riches, donnez-nous les moyens. Et donc, il y a eu des négociations pour obtenir des moyens financiers pour permettre à l'Indonésie, qui est un pays émergent, encore en voie d'industrialisation, de poursuivre son développement économique, mais en sortant du charbon. Ça, c'est les choses qui se passent aux COP aujourd'hui. Mais donc, si on veut faire des COP, des moments miracles qui vont résoudre le problème climatique, on sera toujours déçus, en fait. Il faut le voir comme le moment annuel pour emmerder nos responsables politiques et leur rappeler qu'ils doivent avoir de l'ambition pour le climat à la COP, mais surtout quand ils rentrent ici, pour mettre en place des politiques de la commune au niveau européen qui soient ambitieuses. Moi, je le vois d'abord comme cette opportunité-là.
Alors, moi, je fais partie des personnes qui étaient déçues quand on avait vu ce qui avait été signé à l'accord de Paris, parce que ce n'était pas très contraignant. Mais est venu se rajouter à cela, le 23 juillet 2025, la Cour de justice internationale a publié une advisory opinion, une opinion, comment on dit advisory opinion, un avis consultatif, donc qui n'est pas binding, qui n'est pas contraignant, mais il apporte des choses, il rend l'accord de Paris contraignant, parce que l'accord, l'advisory opinion, ce qu'il dit, il dit que la question climat, c'est une question existentielle, et d'abord il éclaircit, parce que dans l'accord de Paris, il y a 2 objectifs de température, il y a 1,5 et 2, et donc nos pays, déjà, nos gouverneurs, bien sûr, déjà, ils penchaient vers le 2, parce que le 1,5, il est... Et donc là, l'advisory opinion dit, non, l'objectif premier sur lequel les États ont signé, c'est le 1,5. Donc, ils sont accountable pour le 1,5. Puis après, elle dit autre chose, et qui est en vérité une réponse à la question américaine. Elle dit, en fait, la question climat, elle n'est pas uniquement dans l'accord de Paris. OK, ça, c'est le truc principal, la Convention des Nations Unies sur le climat, etc. Et elle cite la Cour de justice internationale, plusieurs autres instruments, et elle retourne jusqu'à un instrument sur les droits de l'homme qui date de 1966. Et après, elle rappelle que dans le traité de Vienne, c'est le traité de tous les traités, c'est là que sont décrites les règles des accords internationaux. Et elle dit que les pays, en fait, ils sont responsables à partir de la première déclaration signée. Donc on ne peut plus dire, ça répond aussi à la question, par exemple, chez nous, on a Zemmour qui dit aujourd'hui, nous, nos émissions, on ne représente que dalle, nous, Français, parce qu'on représente moins de 1%. Donc pourquoi nous embêter? Mais en fait, non. C'est à partir du moment où on a signé l'accord, le premier accord important, et c'est donc 1966, celui-là est entré en œuvre au début des années 70, et aussi la Cour dit, en fait, ce qui compte, ce n'est pas juste les émissions d'aujourd'hui, mais ce sont les émissions cumulées. Enfin, elle explique bien ce qui compte. Moi, je pense que cette advisory opinion, c'est ça le vrai game changer. Il vient donner de la force à l'accord de Paris, il vient combler ce qui manquait dans l'accord de Paris. Et ce qui va se passer, par contre, c'est qu'on va sûrement voir beaucoup plus de procès partout. Donc là, maintenant, on peut se porter partie civile contre nos États, contre l'Union européenne, etc. C'est peut-être ça qu'on doit faire très, très vite, parce qu'il faut beaucoup d'argent pour faire ces procès-là. Comme ça, si on change, on est quand même... Nous sommes ceux qui héritent de la responsabilité des changements climatiques, mais nous sommes aussi ceux qui ont le pouvoir d'aller vite dans l'action, le devoir et le pouvoir d'aller vite dans l'action. Donc moi, je pense que depuis l'advisory opinion, là, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui essayent d'interpréter le truc, c'est qu'il faut qu'on se mobilise en tant que société civile pour qu'il y ait autant de procès possibles en Europe, au niveau de la Cour des droits de l'homme européenne, et là, ils vont devoir se bouger. Parce qu'on va pas, sur le plan politique, là, on est coincé, on est dans un moment politique où la question climat environnemental a été dégagée, mais il y a le droit qui vient nous aider. Donc il faut se mobiliser pour ça.
Et c'est vrai que c'est un tournant, c'est absolument génial. Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est plus simplement du droit des traités, mais aussi du droit coutumier, comme l'appelle la Cour internationale de justice. Et ça, effectivement, c'est un game changer, parce qu'elle dit, les juges de la Haye disent, et c'est vraiment la plus haute juridiction de l'ONU, disent à Trump, mais quand bien même vous avez quitté le traité et l'accord de Paris, en fait, ça n'a pas d'importance, puisque maintenant, ces obligations climatiques sont constitutives de droit coutumier. Donc c'est vraiment gigantesque, et c'est vrai que c'est un tournant que nous avons donc vécu cet été. Peut-être une dernière question.
Une question précise à vous, Yamina, c'est Moi, j'écoute beaucoup, je suis impressionné par la qualité, en tout cas, de la communication de Jean-Baptiste Fressos, qui dit que la transition n'a pas commencé, mais aussi que le groupe du GIEC, qui était le plus déterminant pour les décisions politiques, a été phagocyté, je ne sais pas comment dire, par le politique pour orienter vers les technosolutionnismes, pour protéger les intérêts des énergies fossiles. Et ça m'amène à la question, le manque que je sens dans votre débat, dans ce que vous avez dit, c'est qu'on ne met pas assez en lumière et devant les micros l'activité des lobbies. Je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas des lobbies. Notre média de service public, la RTBF, j'ai discuté avec un journaliste qui est beaucoup sur le terrain, Eric Bever, et je lui ai dit, moi je pense qu'il faut qu'un média de service public ne devrait pas plus dépendre d'intérêts financiers ou idéologiques que l'école, donc l'enseignement, la santé, la justice. Et il m'a dit, mais si on enlève la pub à la RTBF, on va perdre tous nos clients, donc pour rejoindre ce que vous avez dit. Donc cette notion de, on est des clients, et alors j'ai dit, mais alors les hôpitaux, oui, c'est des clients. Donc je pense qu'il faut se battre sur ce niveau-là, c'est vraiment important. Et que, donc on est des citoyens, on n'est pas des consommateurs. Je pourrais en rajouter, mais c'est vraiment...
Vous avez cité Jean-Baptiste Fressos. Moi, j'adore beaucoup les travaux de Jean-Baptiste parce qu'en plus, il m'apporte une perspective historique que moi, j'ai pas. Il y a d'ailleurs un article dans Le Monde qui est sorti hier suite à un article scientifique qu'il a publié sur justement le fait que le groupe 3, c'est le groupe des solutions. Et moi, j'étais dans ce groupe-là. Il retrace historiquement comment est-ce que le groupe 3 a été mis sous le contrôle, en gros, de l'industrie. Alors ça, c'est une vérité parce que moi, j'ai regardé beaucoup les scénarios du GIEC. Les scénarios du GIEC, ils sont tous technosolutionnistes. Et d'ailleurs, j'avais répondu à la journaliste du journal Le Monde en lui disant, j'ai suivi une étudiante l'année dernière, son travail devrait être public d'ici un mois, et elle a regardé les concepts qui sont dans le rapport, qui sont dominants dans le rapport 3 du GIEC, dans le rapport, dans le résumé pour décideurs, qu'est-ce qui disparaît du rapport et qui reste dans le résumé, et puis les commentaires. Qui c'est qui a fait les commentaires ? Eh bien, ces conclusions viennent, justement, soutiennent ce que Jean-Baptiste a écrit. Et c'est pour ça que moi, je dis, la question climat, la question écologique, c'est d'abord une question de citoyenneté. On doit redevenir des citoyens, se réapproprier notre citoyenneté. Et c'est uniquement lorsqu'on redeviendra des citoyens et on sort de cette bulle de consommateur, parce que quand on est consommateur, c'est notre compte bancaire qui décide. Et on est tous les uns contre les autres. Et c'est vraiment une réussite du néolibéralisme. Mais lorsqu'on est citoyen, c'est le vivre ensemble qui va gagner. Et le vivre ensemble, il ne pourra pas se faire dans une planète à 4 degrés. Il faut arrêter de se mentir. En France, on nous a appelé le fameux 3 degrés. À la fin du siècle, avec toutes les politiques décidées jusqu'à présent, à la fin du siècle, on va être autour de 3,2 degrés. D'augmentation de moyenne de la température sur la planète Terre. 3,2, ça correspond pour la France, ça correspond à 4 degrés. Et on nous a appelé il y a 2 ans, le ministre de la Transition écologique, il a lancé un débat avec les citoyens sur l'adaptation à 4 degrés. Moi, je fais partie des gens qui disent mais on ne pourra pas s'adapter à 4 degrés. Pour arriver entre maintenant, on est plutôt autour de 1,5, entre la situation où on est aujourd'hui et 4 degrés, pour arriver là-bas, sur cette trajectoire-là, on aura tuer tous les écosystèmes qui nous permettent de vivre sur Terre. Et moi, souvent, quand j'entends les jeunes dire « je vais sauver la planète », non, la planète, elle va continuer, mais ce sera sans nous, sans l'humanité. Ce qu'il faut sauver, c'est l'humanité d'elle-même, enfin, d'une partie d'entre nous, quoi. On a une minorité qui prend des décisions qui vont dans le mauvais sens pour la vie sur Terre. Et ça, on ne pourra le faire que lorsqu'on arrivera à redevenir citoyen, mais là, redevenir mais citoyenne du monde. Parce qu'en fait, la citoyenneté, telle qu'on l'a vécue dans le monde moderne, chez nous, on était citoyens, on avait la Déclaration des droits de l'homme, mais on avait des colonies. Ailleurs, ils n'avaient pas de droits, ce n'était pas des citoyens, c'était juste des objets. Là, ça serait une citoyenneté mondiale. Peut-être que Belém pourrait être l'opportunité de faire renaître ce projet de citoyenneté mondiale, planétaire. Voilà.
Merci beaucoup, Yamina.
Je vais être super brève, c'est juste pour rappeler que il y a une mobilisation qui avait très bien marché, alors peut-être pas dans les résultats auxquels elle a abouti, mais dans la capacité des citoyens de se réapproprier un enjeu politique très très complexe. C'était celle contre le CETA et le TTIP, parce que le mode de mobilisation a vraiment tendu à faire comprendre aux citoyens, qu'ils soient pharmaciens, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient n'importe quoi, qu'ils étaient tous concernés et qu'ils allaient tous subir les impacts. Et ça s'est fait de manière très pragmatique, très concrète. Et je pense que, voilà, juste pour donner un peu d'espoir, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer pour les stratégies futures.
Merci beaucoup pour cette dernière intervention et ce mot de la fin. Peut-être pour conclure, j'ai envie de laisser la parole à Patrick Scheider, l'auteur de cette carte blanche, encore une fois, que je vous invite à lire dans l'Humanité. Elle est accessible en ligne sur l'écologie populaire. Du coup, repartir un peu du titre de cette table ronde, comment rendre le combat climatique populaire ? Je t'ai parlé hier du projet de réinvention de l'écologie politique, de transformation de notre parti. On sait qu'on doit se réinventer et aussi nous adapter à notre époque. Si on devait aller tirer quelques leçons, quelques enseignements, qu'est-ce que tu nous donnerais comme conseil pour avancer dans la bonne direction ?
Je pense qu'il faut se garder de toute situation de surplomb, en fait. Parler entre citoyennes et citoyens dans un sentiment d'égalité le plus grand possible. Et je rebondis aussi sur ce que le jeune homme disait tout à l'heure. Il disait, mais quel peut être mon espoir ? Enfin, moi, je fréquente beaucoup le milieu des activistes en France, beaucoup qui ont votre âge, entre 20 et 30 ans, ce qu'on appelle la génération Z, font un, voire deux burn-out par an. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'on vous donne espoir. Et je pense que c'est important que vous situiez, en fait, votre lutte et puis votre histoire dans Écolo dans une continuité. En fait, je pense que dans l'esprit des gens, du grand public, hein, ceux qui ne s'y connaissent pas, entre guillemets, ils ont l'impression que l'écologie est un peu tombée du ciel il y a 30 ans, qu'ils ont très très peu d'outils pour s'en saisir, et ça redouble quelque part leur peur et le doute sur des solutions qu'on pourrait proposer. Je pense que se situer dans une filiation, c'est très très important. Au tout début de mon intervention, je disais, il y a eu dans les années 1830, 1850, des gens qui en fait disaient exactement les mêmes choses que vous. Et ça, c'est très très important. Il faut vous dire que les choses précieuses, en fait, elles sont toujours mise en danger. Si vous dites « j'ai un kilo de diamant », par exemple, chez moi, très vite, vous allez être cambriolé. Si vous dites « j'ai un kilo de pont », je pense que vous serez tranquille, vous n'aurez pas beaucoup de gens qui vont venir vous embêter. Donc, ça prouve ces difficultés qu'on a à faire émerger des choses si essentielles comme la vie, c'est-à-dire l'écologie, et puis comme la liberté, qui est toujours menacée, comme un combat qui n'est jamais terminé. Et pour ça, il ne faut pas s'en désespérer. Vous êtes de cette génération, vos enfants vont peut-être reprendre le flambeau, etc. Il y a eu des gens avant vous. Une chose très importante, c'est de ne pas se sentir seul, de se sentir accompagné par des antécédents et en quelque sorte accompagné par le futur. Je pense que plus on a de racines, finalement, et mieux ça permet de se situer. Et je sais que votre génération, parfois, elle a du mal à se situer en disant « mais quel va être le sens à ma vie ?» Et je pense qu'on a vécu une société où on a manqué de sens historique, en fait. Le sens, c'est savoir se situer. Ce n'est pas avoir un avenir merveilleux, puis le passé, on ne sait pas trop ce que c'était, et puis le présent est détestable. Ce n'est pas ça, le sens. C'est de dire, il y a eu des choses avant, j'en suis quelque part héritier. Vous êtes héritier des bonnes choses, comme aussi des mauvaises choses. Travaillez sur le présent. Ne faisons pas que de rêver à des utopies, mais le présent est super intéressant. Et là, nous, on va inventer un truc complètement fou qui va être des uchronies. Vous savez, il y a la nostalgie qui est retardée vers le passé. Il y a les utopies qui est un futur qui sera fantastique, paradisiaque. Une uchronie, c'est dire, mais on peut écrire le présent différemment. Moi, actuellement, par exemple, je travaille avec un activiste très connu en France qui s'appelle Thomas Braille, qui lutte pour que l'A69... Un autoroute qui est vers Castres et Toulouse est très écocidaire, ça détruit des terres arables, enfin, c'est un vrai malheur. Donc, j'ai proposé à Thomas, je lui ai dit, écoute, on va faire une vidéo, genre TikTok, une minute, on va raconter exactement le contraire. Moi, je vais jouer le jeu d'un genre de génie, vous savez, Aladdin, qui est capable de transformer, justement, le plomb en or, etc., avec la médiation, c'est génial, tout peut se faire. Donc cette uchronie, on va la faire avec différentes personnes, avec Marine Calmet, par exemple, qui défend les droits des rivières et des fleuves, avec Denis Chessoux, qui est un chroniqueur sur France Inter, etc. Et donc, avec Thomas, on a fait une vidéo où il dit, ça y est, maintenant, le projet de la 69 est terminé, maintenant, il y a des corridors écologiques qui ont été à la place, et quand il y a un feu, grâce à ces corridors, ça permet aussi que finalement, le feu ne se communique pas d'un côté de la forêt à un autre, etc. On réécrit le présent. Et c'est très important, parce que c'est une chose d'avoir vouloir avoir une prise sur le futur. mais avoir une prise sur notre présence est très important. Et ça permet à des gens de se dire, mais ouais, au fond, mais qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? En fait, c'est des choses très très simples qu'il faut faire. Si on veut se refonder, c'est pas avec une pensée hyper complexe, parce qu'on n'en a rien à faire, les gens ils comprennent pas, et nous-mêmes, en vérité, on a besoin de choses simples. Et si je peux résumer, je crois que les gens, ce qu'ils souhaitent, n'importe qui, les riches comme les pauvres, j'appelle ça, moi, la banalité bienfaisante du quotidien, c'est-à-dire mieux vivre au quotidien. On n'attend pas des choses exceptionnelles, on s'en fiche. Si on veut des choses exceptionnelles, pourquoi pas. Mais bien vivre et mieux vivre au quotidien, c'est ça, notre vraie utopie. Donc, agissons sur le présent. Et je crois que voir le présent différemment, c'est avoir une prise sur lui et ne plus attendre de sauveur, finalement, de sauveuse. Moi, je suis assez critique sur, par exemple, tout ce qui se fait au niveau des influenceuses et des influenceurs écolos. Ça laisse croire qu'il y a une héroïne et un héros qui va sauver le monde. Mais non, c'est nous tous qui allons sauver le monde. C'est pas quelqu'un qui a 15, 20, 30, 60, 70 ans. C'est tous ensemble, en fait. Reprenons notre pouvoir. On n'a pas besoin de sauveur. Sauvons-nous nous-mêmes, parce que je suis sûr qu'on en est capable. Les gens ne sont pas si bêtes que ça. Ça va être la façon dont on leur parle qui va être très importante. Ils veulent attraper, ils sont très très humbles. Ils demandent d'attraper l'écologie par un petit bout qu'ils comprennent. Comme ils ont fait avec le libéralisme. On leur a promis deux ou trois choses. Il n'y a pas besoin de lire un gros truc sur le libéralisme pour en profiter et ensuite pour être tué par lui. C'est ça qu'il faut sur l'écologie. Donner un petit bout qui soit engageant, là ça changera les choses. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la banalité et même de la vulgarité qui peut avoir, à mon avis, une certaine noblesse.
Ici se clôture la conférence « Comment rendre le combat climatique populaire ?» avec Yamina Saheb, Patrick Scheider, Nicolas Van Nuffel et Samuel Cogolati. Vous étiez le dimanche 31 août 2025 sous le grand chapiteau de Massambre dans le cadre du Festival de l'écologie populaire proposé par Etopia, Centre d'animation et de recherche en écologie politique.